Silence et gâteau de miel, la sagesse du désert.
Bonjour et bienvenue en ce samedi 13 mars. Aujourd'hui, c'est notre dernier épisode de la semaine et nous réfléchirons à l'harmonie, celle qui se produit quand nous nous mettons à l'unisson de la parole de Dieu. Nous entrons dans cette méditation avec le psaume 51. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes sur ton autel. Nous entendons la parole de Dieu dans l'évangile de Luc au chapitre 18, les versets 9 à 14. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : « Mon Dieu, je te rends grâce. Parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Louange à toi, ô Christ. » Rowan Williams, Silence et gâteau de miel, chapitre 3, Fuir, sixième partie. Quand nous pensons, comme nous l'avons fait hier, au langage de la liturgie, cela nous rappelle l'une des raisons théologiques à cause de laquelle, pour nous chrétiens, le langage n'est pas indifférent. Dans la liturgie, nous cherchons à nous placer sous la parole de Dieu. Nous essayons de mettre nos cœurs et nos esprits en harmonie avec ce que Dieu a dit par le passé et nous dit en ce moment, en Jésus et dans les mots de l'Écriture. Nous nous souvenons ainsi que Dieu a créé toutes choses par un acte d'autocommunication et que, quand nous répondons à son appel, nous cherchons un moyen de renvoyer cette autocommunication, d'y faire écho. Mais la même chose est vraie de toutes nos relations, pas seulement de ce qui se passe dans nos liturgies. Si Dieu a fait toutes choses par son Verbe, alors toute personne, toute chose, existe parce que Dieu lui parle et parle en elle. Si nous devons répondre de manière véridique et adéquate, il nous faut écouter la parole que Dieu dit à et par chaque élément de la création. D'où l'importance d'écouter dans un silence empli d'attente. Pour emprunter une image qui apparaît dans certains textes hindous anciens, nous pouvons penser au Verbe créateur comme s'il avait été prononcé dans une vaste caverne de potentialité, qui est le premier moment de l'existence créée. De cette obscurité proviennent d'innombrables échos du premier verbe éternel, les harmoniques cachées dans ce son originel. Quand nous répondons justement, quand nous entrons dans une relation juste avec quelqu'un ou quelque chose, c'est comme si nous avions trouvé la note à chanter qui entre en harmonie avec le verbe créateur. Chaque être porte au plus intime de lui-même son propre verbe, son propre logos. Entrer avec qui que ce soit ou quoi que ce soit en relation, de manière véridique, c'est découvrir ce verbe, ce mot. Dans un livre récent sur la musicothérapie pour les enfants autistes, j'ai lu une description mémorable de la manière dont le thérapeute doit écouter et réagir. On laisse l'enfant faire le bruit qu'il veut, avec les instruments mis à sa disposition par terre, et on écoute avec toute son attention, jusqu'à ce qu'un rythme ou un motif commence à émerger. Quand cela se produit, on commence progressivement soi-même à produire un rythme ou un motif qui fait écho à celui de l'enfant. La communication commence et quelque chose qui n'était pas encore là émerge. Il en va de même de notre coopération avec et de notre réponse au verbe de Dieu. Nous devons écouter intensément pour saisir le rythme de la vie divine dans ce qui paraît, au premier abord, être inintelligible. Et nous devons apprendre progressivement à y faire écho et à produire des sons en union avec lui. Nous prions. Seigneur, tu chantes pour moi, tu chantes pour nous tous, un chant d'amour fidèle depuis les temps anciens. Tu offres une eau claire en suffisance à ma soif, en suffisance à notre soif. Tu prends soin de moi, tu prends soin de nous tous, au jour du brouillard. Seigneur, viens toi-même chercher en nous ce qui est perdu, fortifier en nous ce qui est malade. Seigneur, chante en nous, parle en nous et aide-nous à chanter avec toi. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.